L'onde du bois, une chronique de Lionel Ripaud.
Alors, quel est le sujet de cette 28e chronique aujourd'hui ?
Eh bien, Maëline, on continue nos portraits d'arbres, et toujours dans un souci d'égalité, comme je vous ai parlé des chênes la semaine dernière, eh bien, je vais vous parler d'une autre essence de pleine lumière, cette fois-ci, hein, il n'y a pas de raison, et que je compare souvent même aux chênes, mais là, c'est un résineux. Hein. Je vais aujourd'hui vous parler d'un arbre résineux qu'on ne présente plus chez nous, tellement on le voit tous les jours, mais dont il est nécessaire de dévoiler tous ses secrets qui permettront alors de mieux le connaître et donc de le voir d'un œil différent pour mieux l'apprécier. J'ai nommé le Douglas.
Ah oui, donc le fameux.
Le fameux Douglas.
Est-ce qu'on ne rajoute pas un pin ou sapin devant Douglas ?
Alors c'est vrai qu'on a tendance à franciser son nom originaire d'Amérique du Nord, hein, Douglas fir, fir qui veut dire sapin en anglais, mais contrairement à ce que laissent supposer ces noms populaires souvent utilisés dans les médias, le Douglas n'est ni un pin ni un sapin. C'est un pseudotsuga, rien d'autre, comme le confirme son nom de genre, Pseudotsuga menziesi.
Alors justement, pour son nom en français, Douglas, on dirait que ça vient directement d'un nom propre. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Tout à fait, Maëline. Ce grand résineux doit son nom vernaculaire à celui qu'il introduisit en Europe, David Douglas. Il a une incroyable histoire, ce David Douglas. Ça mériterait presque d'en faire une chronique. Né en Écosse en 1799, David Douglas deviendra apprenti jardinier dès l'âge de 11 ans. Quelques années plus tard, il épluche pendant 3 ans la bibliothèque d'un mécène, Sir Preston, et devient un expert en botanique pour la reine Victoria. Membre de la Société nationale d'horticulture de Londres, il effectue son premier voyage transatlantique en 1823 pour explorer les vastes territoires inconnus de l'Amérique du Nord, jusqu'à Hawaï, et récolté près de 7000 plantes, dont 254 ont été introduites en Angleterre. David Douglas mourut malheureusement prématurément sur Big Island, dans l'archipel des Sandwich, et dans des conditions fort mystérieuses. En effet, son corps a été retrouvé dans un piège à bœuf sauvage, piétiné par un stock capturé, mais sa dépouille présentait des entailles au visage, laissant croire à un meurtre maquillé. Pour quel mobile ? 60 ans plus tard, l'enquête révéla que David Douglas avait rencontré un chasseur, Ned Gurney, ex-bagnard, et que dans son extrême naïveté, Douglas lui aurait montré son argent pour l'héberger, ce dernier le tuant à coups de hache pour le détrousser et le jetant dans une fosse à bœufs. David Douglas était alors âgé de 35 ans.
Ah oui, donc... une mort étonnante, étrange, une mort tragique, hein, pour ouais. Le père des Douglas. Comment, alors tu me dis que le Douglas vient d'Amérique, de quelle région précisément ?
Eh bien, sur les sacs de graines expédiés par Douglas en Angleterre, on pouvait lire « Ville de Monterey », à la suite d'un long périple sur la côte ouest d'où il venait de traverser les États de Washington et d'Oregon. Je tiens à préciser ici que la découverte de l'arbre Douglas ne doit pas être uniquement attribuée à David Douglas, qui, par contre, a été son principal agent disséminateur. En effet, ce résineux avait été découvert vers 1788 par un chasseur de plantes célèbre, Sir Archibald Menzies, qui les ramena pour son seul plaisir dans sa propriété de Blair Castle, non loin d'Édimbourg. Il donna son nom à l'espèce Menziesii. Pour revenir à ta question, Maëline, selon les provenances, les Douglas sont classés en deux grandes sous-espèces, les Douglas verts et les Douglas bleus. Les Douglas verts proviennent plus du nord de la côte ouest, sur la frange Pacifique, Colombie-Britannique, État de Washington, État de l'Oregon, alors que les Douglas bleus sont plus présents dans les terres, les rocheuses, Idaho, Montana, Wyoming, Arizona, Nouveau-Mexique, voire même jusqu'au Mexique.
Et alors les nôtres de Douglas, ceux du plateau de Mille Vaches, c'est des Douglas bleus ou des Douglas verts ?
Très bonne question. Et d'ailleurs, à ce sujet, je conseille à nos auditrices et auditeurs intéressés par ce sujet de lire le daté mais néanmoins excellent article de l'équipe mené par Jean-Charles Bastien qui parle des essais menés en France sur le Douglas bleu. Faut-il s'intéresser au Douglas bleu ? En le lisant, on apprend que le Douglas bleu est plus montagnard que le vert, jusqu'à 2400 mètres, et qu'il tolère mieux les années à faible précipitation, entre 360 et 1200 mm, ce qui correspondrait bien à nos conditions stationnelles aux Limousines. Cependant, sur le plateau, 95% des Douglas sont des Douglas verts, plus intéressants pour la production de bois, car leurs fûts sont bien cylindriques et élancés avec de beaux accroissements annuels. En France, 8 dispositifs expérimentaux pour le Douglas bleu ont été installés, dont un à Peyrales-Château, dans une station typique de reboisement du Douglas vert. Là-bas, on peut comparer la croissance des bleus et des verts, et les résultats indiquent que la survie moyenne des Douglas bleus après 6 ans de plantation était de 91%, ce qui est satisfaisant, quoique légèrement inférieur à la moyenne des Douglas verts. 97% sont restés en vie pour les Douglas verts.
Donc oui, du côté de Peyrales-Château, hein, un territoire couvert par Radio-Massivia. On fera attention hein, quand on ira couvrir un événement là-bas, on regardera les Douglas. Ouais. Alors comment est-ce qu'on les distingue, les Douglas bleus et les Douglas verts hein, j'imagine que c'est quand même assez subtil. Et de manière générale, comment est-ce qu'on reconnaît un Douglas?
Eh bien, rien ne vaut une bonne reconnaissance sur le terrain, Maëline. D'ailleurs, je pense à cette occasion des 40 ans de Radio-Massivia que on fera des sorties terrain. Hein, on fera plusieurs balades commentées en forêt avec de la botanique, entre autres.
Super.
Donc restez informés, chères auditrices, auditeurs. Pour le Douglas bleu, c'est facile, ses aiguilles sont vert glauque et relevées, alors que celles du Douglas vert sont bien vertes, en brosse, molles, et leurs bourgeons ovoïdes pointus. Les aiguilles sont douces, doux, c'est du Douglas. Ça, c'est le petit moyen mnémotechnique. Les écorces des Douglas sont lisses, vertes, avec beaucoup de petites pustules bien dures à l'état jeune et bien crevassées longitudinalement au fond de la crevasse d'une couleur brune-orangée pour une écorce plus âgée qu'on appelle aussi rhytidome. Dans tous les cas, les cônes de Douglas sont bien reconnaissables grâce aux bractées trifides. Hein, ça fait 3 petites pointes sur des écailles insérées à la base de chaque écaille.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de sa sylviculture, hein, car aujourd'hui le Douglas c'est l'essence privilégiée chez les propriétaires forestiers, mais plutôt assez décriée du grand public, hein, j'ai l'impression.
Ah, tout à fait, ouais, c'est vrai, d'un côté c'est la superstar et de l'autre le mal-aimé. Il produit vite du bois de bonne qualité, mais les cèpes ou les girolles ne poussent pas à ses pieds. On dit aussi souvent de lui qu'il acidifie les sols, ce qui n'est pas tout à fait exact. Je dis souvent qu'il acidifie autant les sols que le hêtre ou le sapin, car dans tous les cas, les sous-bois sont très ombragés. La faune décompositrice y est peu présente, et donc la matière organique y est très lentement décomposée. Et puis de toute façon, les sols n'ont pas attendu le Douglas pour être déjà acides. En moyenne, on est sur des pH de 4. Non, le problème découvert par les laboratoires de l'Université de Limoges et exposé récemment dans un reportage de France 3, c'est surtout le fait que le Douglas résiste autant que le sapin ou l'épicéa à la présence d'aluminium dans le sol et que en fait c'est l'exploitation intensive et notamment les coupes rases qui rendent l'aluminium plus mobile et à nouveau reconcentré, se déversant au sein des captages d'eau jusqu'à chez les consommateurs. L'aluminium en surdose est aujourd'hui reconnu comme l'un des principaux responsables de maladies neurodégénératives comme Alzheimer.
Mais qui l'eût cru ? Ouais. Eh bien, donc on voit ici que ce n'est pas forcément un problème lié à l'essence même, mais plutôt au type de sylviculture. Est-ce que le Douglas peut être cultivé moins intensivement ?
Bien sûr, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, notamment dans l'Onde du Bois 23, sur les stratégies d'installation des peuplements, notamment en privilégiant la régénération naturelle et le mélange d'essences. Le Douglas est une essence héliophile qui tolère la demi-ombre dans le jeune âge, ce qui en fait une essence idéale pour une futaie régulière à régénération progressive, voire une futaie irrégulière assez ouverte avec des hêtres, sapins, mélèzes, érables en accompagnement. Je connais dans le coin de magnifiques parcelles irrégulières qui se régularisent dans les gros bois en Douglas. D'ailleurs, on n'en a pas encore parlé, mais le Douglas pousse bien, vite et haut. Le plus grand arbre du monde en est un. C'est un Douglas qui culmine à 115 mètres dans le comté de Humboldt, en Californie. Appelé Hyperion, son âge est estimé à 700 ans. Et chez nous, en France, il s'agit aussi d'un Douglas, le plus haut arbre de France. qui fait 66 mètres de haut, celui de Renaison, hein, quasiment à armes égales avec nos chers Douglas Defarge à Memac, qui le talonne, voire même peut-être le domine discrètement, à vérifier. En tout cas, moi je ne peux pas m'empêcher de me projeter dans 500 ans, ici, en pensant aux futures futaies cathédrales que pourront admirer les habitantes et habitants du plateau. Il faut préserver les arbres, voire des peuplements entiers.
On imagine bien l'effet waouh hein, que ça produirait en effet. Et pour finir, le Douglas, on sait qu'il est très utilisé en construction hein, grâce à son bois de cœur bien rose, hein, quasi imputrescible. Mais est-ce qu'il y a d'autres utilisations plus méconnues et peut-être des usages plus symboliques ?
Ah là là là, ma pauvre Manine, j'ai peu d'anecdotes à raconter sur son compte. Pas de remède traditionnel à base de ses aiguilles, de son écorce ou de ses cônes. Pas de légende, de superstition ou de croyance à répéter sur le pseudo Tsuga, sauf celui qu'il rapporte de l'argent à celui qu'il le plantera, entre 80 et 100 euros le mètre cube sur pied, selon les volumes unitaires pour des arbres droits, sains et élagués. Cela nous indique peut-être qu'il y a encore tout à faire pour créer une mémoire à cet arbre chez nous, finir enfin par l'accueillir correctement, car après tout, c'est un arbre comme les autres qui s'est fait déplacer, à trouver refuge chez nous malgré lui.
Eh bien oui, je trouve que c'est une bonne idée hein, de revenir aux mythes et à leur formation. Notre territoire en aurait plus besoin. En attendant, on se quitte en musique avec une musique justement mythique qui t'a fait penser au Douglas. Tu nous expliques pourquoi ?
Ouais, pour la musique de cette chronique, je ne pouvais pas passer à côté de ce conte fantastique, moderne. Cette enquête policière étrange entre rêves bleus éveillés et hallucinations fractales et tribales qui se passe dans une petite ville américaine ressemblant à l'un de nos nombreux villages du plateau de Mille Vaches et dont l'histoire rassemble des personnages tous aussi incroyables et étranges les uns que les autres. Vous l'avez peut-être deviné, j'ai bien entendu pensé à Twin Peaks, série éponyme des années 80 à aujourd'hui, où l'agent du FBI, Dole Cooper, se rend pour enquêter sur le meurtre de la jeune Laura Palmer et qui souvent s'exclame de la beauté des grands arbres et de leur parfum enivrant, jusqu'à demander comme envoûté au shérif « Shérif, quelle sorte d'arbre fantastique pousse ici sur vos collines tellement grand, majestueux ?» Le shérif répondant « Des Douglas, ce sont des Douglas. » Et plus tard, de comprendre dans l'histoire que ces Douglas sont eux-mêmes des personnages importants. Pour ce mythe des temps modernes, merci à David Lynch.
Et donc on finit cette chronique en écoutant le générique
de Twin Peaks.
Mm-hmm.